L'actualité des Alpes du Sud avec le harcèlement scolaire, un phénomène qui touche plus d'un élève par classe selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale.
Cette priorité gouvernementale se décline sur le terrain avec le dispositif phare. Dans les Hautes-Alpes, on recense deux responsables départementaux de lutte contre le harcèlement. Pour le moment, avec un objectif de parvenir à former 100% des personnels de l'Éducation nationale d'ici 2027.
Le lycée Carméjane à Saint-Jurçon a l'honneur aujourd'hui.
De 9h à 16h, il accueille la finale sud des Ovimpiades des jeunes bergers, un concours régional qui s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans, élèves dans des établissements agricoles. Les deux meilleurs candidats aujourd'hui pourront concourir au titre de meilleurs jeunes bergers de France 2025 au prochain salon international de l'agriculture à Paris.
Prévi Plus, ça c'est le nom d'une nouvelle appli météo locale.
Paul Marquis, le prévisionniste indépendant de Météo Alpes Durance, en est à l'origine. Sa promesse est simple, offrir des prévisions météo locales qui seront expertisées par des prévisionnistes indépendants.
Et puis ce sont quelques 500 000 visiteurs qui sont attendus dans les Hautes-Alpes.
La période représente 20% de l'activité de la saison d'hiver, indique l'agence de développement. Les chiffres sont prometteurs avec un taux d'occupation moyen des hébergements touristiques pour les deux semaines des vacances scolaires qui s'élève à 75,1%.
L'actualité des Alpes du Sud est donc le harcèlement scolaire, phénomène qui touche plus d'un élève par classe, hein, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale.
Dans le détail, 5% des écoliers du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens avouent en avoir été victimes. Cette priorité gouvernementale depuis 2 ans se décline sur le terrain. Dans les établissements scolaires, des personnels sont formés pour être ressources, c'est le dispositif phare. Ils sont à même d'intervenir et de recueillir la parole. Dans les Hautes-Alpes, on recense également 2 responsables départementaux de lutte contre le harcèlement. Gwenaëlle Tarantola en a la charge dans les collèges et les lycées. Quelles sont les réponses apportées lors d'un cas de harcèlement?
On a 2 possibilités. Soit on est sur un protocole déjà à l'intérieur de l'établissement qui va passer par ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée, qui est une méthode dans un premier temps non blâmante pour des situations d'intimidation pas encore qualifié de harcèlement. On va se préoccuper tous ensemble pour la cible et on peut voir des auteurs, on peut voir des témoins. On peut leur demander, eux, de se mobiliser pour essayer d'apaiser cette situation, de comprendre ce qui se passe pour l'autre élève. Et donc, on fait appel à l'empathie des élèves et on est dans un travail éducatif fort. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'à la fois, ils prennent conscience qu'ils sont dans un collectif et qu'on doit se préoccuper des autres et à la fois de la limite des actions qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et puis après, sinon, on a aussi le protocole national qui, là, on est sur une procédure plus disciplinaire. Ça peut aller de l'avertissement jusqu'à la convocation du conseil de discipline. C'est le chef d'établissement qui va bien sûr statuer sur la sanction. Mais les personnes sur place vont évaluer la situation et la gravité des faits.
La réponse disciplinaire n'est donc pas automatique, ce qui est parfois incompréhensible pour les familles. Aymeric Metz, directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Hautes-Alpes.
Et c'est pour ça que la première chose qui est faite lorsque l'on rencontre la famille, c'est bien d'échanger avec eux sur ce que vit leur enfant. Avec un objectif commun, c'est celui qu'il aille mieux. Effectivement, là, la demande de sanction, qui est une demande finalement naturelle, humaine, que l'on peut comprendre, mais la vraie attente de la famille, c'est que son enfant aille bien. Et si on arrive ensemble à faire que son enfant aille mieux, en général, la demande s'apaise. Et parfois, effectivement, ça passe quand même par une sanction si, comme disait Mme Tarantola, si la réponse en première étape n'a pas suffi, il faut parfois une sanction. Oui. On a même la possibilité maintenant, dans le premier degré, c'est-à-dire dans les écoles, d'aller jusqu'à déplacer un auteur de faits de harcèlement.
Dans les écoles?
Y compris dans les écoles.
L'objectif dans les Hautes-Alpes et partout en France est de parvenir à former 100% des personnels de l'éducation nationale d'ici 2027.
Le lycée Carméjane à Saint-Jurçon a l'honneur aujourd'hui.
Il accueille à la finale sud des Ovimpiades des jeunes bergers de 9h à 16h, un événement régional pour assurer le renouvellement des générations et le maintien de sa production. Ces Ovimpiades s'adressent aux jeunes de 16 à 24 ans qui sont élèves dans des établissements agricoles. Les 2 meilleurs candidats aujourd'hui pourront concourir pour le titre de meilleur jeune berger de France 2025. Ce sera lors de la finale nationale prévue le 22 février prochain au Salon international de l'agriculture l'agriculture à Paris. Selon la Fédération régionale ovine du Sud-Est et la Maison régionale de l'élevage, ce travail commence à porter ses fruits puisqu'un départ d'éleveurs est compensé par une arrivée. Une ferme ovine sur trois est dirigée par une femme.
On parle maintenant de ce sujet qui passionne les foules et qui est l'objet de nombreuses conversations. Alors quel temps fera-t-il dans les jours à venir ?
La météo est une préoccupation tant pour les petits que pour les plus grands. Dans les Alpes du Sud, une toute nouvelle application a vu le jour, Prévi Plus. Après 2 ans de développement avec l'entreprise Deal Cover basée à Aix-en-Provence, Paul Marquis, le prévisionniste indépendant de Météo Alpes Durance, a lancé cette application locale. Sa promesse est simple, offrir des prévisions météo locales qui sont expertisées par des prévisionnistes indépendants. Chaque département a donc son professionnel. Tout est fait à la main par un humain, souligne Paul Marquis.
Il faut savoir que 95% des applications sont entièrement automatiques, donc c'est des données qui vont être brutes, qui ne seront pas expertisées. Donc du coup, parfois, on aura la météo, par exemple, pour Gap, qui sera la même dans l'application que pour Embrun, alors qu'on sait très bien qu'effectivement, c'est pas le cas. Donc là, c'est le prévisionniste qui va intervenir. Effectivement, lui, son travail, c'est de d'écrire un texte de manière quotidienne pour chaque département. Donc là, pour les Hautes-Alpes, c'est moi qui fais les prévisions. Donc là, il y a une vraie différenciation dans l'application du secteur de l'Embrunais, du Briançonnais, du Kera ou encore du Capensé. Donc c'est fait sous forme de texte, de picto, c'est assez bien fait. Et surtout, il y a aussi tout ce qui est notification. Donc là, c'est envoyé parfois quand les prévisions sont mises à jour, vous avez une notification, quand il y a un risque de neige, de tempête ou d'orage. Donc là, c'est vraiment du direct en temps réel, ce que ne peut pas faire une application dite automatique. Donc là, la plus-value, c'est que le prévisionniste met à disposition ses compétences au profit du plus grand nombre de personnes, en tout cas par territoire. Certains services de l'État étaient parfois défaillants sur certaines tarifs météo, qui étaient trop longues à venir ou parfois assez imprécises. Donc on s'est dit qu'on pouvait mettre à profit effectivement le fait que les gens soient passionnés sur un territoire, donc c'est beaucoup plus précis d'avoir une personne qui fait des prévisions pour un département, souvent c'est plus fiable qu'une personne qui fait une prévision sur une région entière ou la France entière.
Cette application concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais elle doit s'étendre sur tout le territoire national d'ici quelques mois. Elle est d'ores et déjà disponible gratuitement.
La météo, on en parle. Météo qui n'a pas été clément, bien sûr, du côté de Mayotte.
Le territoire a été touché il y a quelques jours par le cyclone Chido. Nos compatriotes de Mayotte se retrouvent aujourd'hui confrontés à une situation dramatique d'une ampleur inédite. Il est de notre devoir de leur venir en aide, souligne Renaud Muselier, le président de l'hémicycle marseillais. Un appel aux dons a été lancé par la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour soutenir le département d'outre-mer. 3 associations humanitaires ont été identifiées par la région sud, la Croix-Rouge qui distribue des vivres, la protection civile qui coordonne les opérations de secours et l'agence d'aide à la coopération technique et au développement. L'ONG se concentre prioritairement sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement puisqu'une pénurie d'eau est à craindre ainsi que le développement d'épidémies telles que le choléra, explique la région. En bref, les urgences de Manosque seront ouvertes en journée du 24 au 30 décembre inclus. Pas d'ouverture la nuit en revanche, sauf pour le lundi 30 décembre. Il est recommandé de faire le 15 pour bénéficier d'une régulation sur Digne-les-Bains, Sisteron, Pertuis ou encore Aix-en-Provence. Le SMUR et l'accueil des femmes enceintes sont maintenus 24 heures sur 24.
Et puis ce chiffre, ce matin avec les fêtes de fin d'année, ce sont 500 000 visiteurs qui sont attendus dans les Hautes-Alpes.
La période représente 20% de l'activité de la saison d'hiver, indique l'agence de développement. Les chiffres sont prometteurs avec un taux d'occupation moyen des hébergements touristiques pour les 2 semaines des vacances scolaires qui s'élève à 75,1%. C'est une hausse de 5,5% par rapport à l'année dernière, avec comme à l'accoutumée une seconde semaine meilleure. Pour l'ensemble de la saison d'hiver, les 27 stations des Hautes-Alpes enregistrent pour le moment une hausse prévisionnelle de fréquentation de 2% par rapport à l'hiver 2023-2024.
Et pour les fêtes, avec les repas fastueux, il y a souvent cette fameuse question, quel vin choisir pour le repas ? Eh bien, pour accompagner vos mets, justement, quoi de mieux que de demander au meilleur sommelier de France ? Et ça tombe bien, puisqu'il est sisteronné.
Il s'appelle Bastien Desbonneaux, 32 ans, et après une phase de sélection et des demi-finales pas évidentes, le Basalpin a terminé en tête de la finale aux multiples épreuves. Le 3 novembre dernier, devant un public de 500 personnes, Bastien Desbonneaux a dû identifier 5 vins et en commenter un seul en 5 minutes, proposer un service de vin rouge, identifier des spiritueux, proposer les meilleurs accords avec des mets cuisinés par le chef Gilles Goujon, sans oublier des présentations en anglais. Toutes ces épreuves change chaque année, sinon c'est trop simple. Ce concours nécessite donc une préparation longue de plusieurs mois. Bastien raconte sa méthode Desbonneaux.
mon objectif, c'était de peut-être préparer sur le maximum du sujet, déjà sur le point de vue théorique, mais aussi sur le point de vue de méthodologie de réponse. Donc mon travail, c'était au quotidien toujours de la théorie, le matin, c'est là où je fonctionne le mieux. Après, à midi, mes équipes me préparent toujours 3-4-20 identifications à l'aveugle que j'avais achetées. Après, on fait les eaux de vie. Et parfois, ils me posent une question, je leur ai dit, voilà, d'actualité, ce que vous voulez, vous me posez une ou deux questions. Et après, les week-ends, une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines, avec un coach sur des ateliers, des mises en scène, soit ils venaient avec moi, donc avec Olivier, soit ils venaient me préparer, soit j'allais le voir au CFA de Groisy. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu me préparer. Le résultat, on le mesure, mais l'investissement, les investissements sont colossaux. On est à peu près entre 7 et 10 000 euros par an pour chaque concours. Et pour après, en général, voilà, ça fait partie aussi de mon travail d'aller de me déplacer chez les vignerons, mais c'est pas obligatoire. Mais grosso modo, un concours, oui, c'est 7-10 000 euros.
Bastien Desbonneaux était assisteron ce lundi pour présenter son titre au maire de la commune. Une véritable star, n'a pas hésité à dire Daniel Spagnou à propos de Bastien. Le maire de Sisteron le connaît bien. Il y a 32 ans, c'est lui qui avait signé l'acte de naissance de l'actuel meilleur sommelier de France.
Son papa est agriculteur à Saint-Genier. Il a fait ses études à l'école hôtelière de Sisteron. Et donc, c'est un honneur pour la ville de Sisteron. Après avoir eu le meilleur sommelier du monde avec M. Forbrac, nous avons aujourd'hui donc le meilleur sommelier de France. Voilà donc, et ça montre que dans nos petites villes rurales et de montagne, eh bien on a quand même des gens de grande valeur qui arrivent à faire leur chemin. Je me souviens quand il est né, eh bien son père bien sûr était heureux. Parce qu'il disait, ben ça y est, j'ai un successeur pour mon exploitation de l'agneau de Sisteron. Et puis finalement, regardez, ben, il n'est pas agriculteur, mais il est premier sommelier de France et justement, il est demandé de partout. Une ville se construit aussi autour de personnages qui sortent de l'ordinaire, qui deviennent un peu des stars. C'est une star, lui, dans le milieu de la restauration. Il va dans le monde entier quand... Il dit, ben, d'où vous êtes? Il dit, je suis de Sisteron. Eh bien, vous vous rendez compte de la publicité que ça nous fait.
Bastien Desbonneaux est à retrouver aux côtés du chef du restaurant 2 étoiles, la table de Johan Comte. Le sommelier balsalpin et le chef savoyard proposent leur combinaison à Verrier du Lac sur les bords du lac d'Annecy.
Voilà, et une fois que vous avez fini de la boire, la bouteille, avec modération bien sûr, cette bouteille en verre, eh bien il faut bien la trier et la recycler.
La DLV Agglo sensibilise en cette fin d'année sur les déchets. La période de fête est celle où l'on produit le plus et celle où l'on gaspille le plus également. L'Agglo souhaite sensibiliser avant Noël et appelle à opter par exemple pour des cadeaux éco-responsables emballés dans du papier cadeau durable comme des pochettes en tissu. Pour l'après-réveillon, le tri est à respecter avec par exemple les emballages, le papier bulle et les papiers cadeaux dans la poubelle jaune et les coquilles diverses dans la poubelle à ordures ménagères.
Et la programmation du prochain festival musique à Manosque se dévoile peu à peu.
Le rappeur Soul King est attendu en concert le 19 juillet dans la cité Giono. Le festival a lieu du 18 au 22 juillet prochain avec 5 soirées de fêtes organisées pour les 40 ans du festival, dont 2 soirées payantes avec des artistes de renom. Le rappeur Soul King est donc l'une de ces 2 soirées au tarif de 15 euros. Le deuxième nom doit être révélé samedi en ouverture le 18 juillet. Naps est pressenti selon nos confrères de la Provence.
Un mot sur le Vendée Globe, ça bouge ou pas?
Pas de changement au niveau du classement. Romain Attanasio est toujours 15e, juste devant Damien Seguin, l'autre skipper haut alpin, 16e.